Alors, ce matin, on termine notre série dans le livre d'Exode. On termine la série dans le livre d'Exode et ma prière pour l'Assemblée, ma prière pour l'Église, c'est qu'à travers ce livre-là, vous ayez découvert davantage l'Évangile de Jésus-Christ. On est dans l'Ancien Testament, mais il faut savoir et il faut comprendre. Plus on grandit ensemble en Église, dans la parole de Dieu, il faut savoir et il faut découvrir l'histoire de la rédemption qui est la trame de fond, le filigrane de toutes les Écritures des 66 livres de la Bible. Et ce livre-là est important. Et ce matin, on termine le livre en allant vraiment au cœur de ce que Dieu avait comme projet pour Israël et de ce que Dieu a comme projet pour nous. C'est drôle ce qui se passe avec ce passage-là, puis Stéphane va juste nous lire quelques extraits parce qu'on couvre 6 chapitres, de 35 à 40, d'accord? Et donc, on couvre tous ces chapitres-là, on va lire quelques extraits, mais dans ces chapitres-là, le plus grand tronc de ces chapitres, c'est la construction du tabernacle. Et Moïse a jugé bon, inspiré par l'Esprit-Saint, de décrire en détail chacun des éléments. Pourtant, quelques chapitres plus tôt, alors qu'il donnait les directives pour la construction du tabernacle, on a pratiquement la même description. Fait que je vous donne un cue. Quand il y a des répétitions dans la Bible, quand Dieu se répète, c'est pas parce qu'il souffre d'Alzheimer. C'est parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est prioritaire pour Dieu. Et ce matin, Dieu a un message pour nous, du repos qu'on trouve en lui à travers ce passage-là. On va prier ensemble. Père éternel, j'ai été personnellement béni, édifié d'étudier le passage encore cette semaine, de revoir ça, de méditer, Seigneur, ces vérités fondamentales à l'expérience humaine, Seigneur, parce que le vrai repos se trouve en toi. Le vrai repos se trouve lorsque tu es au milieu de nous, Seigneur, dans nos vies, au milieu de la nation d'Israël. Alors, Père, ce matin, je veux te demander, en toute simplicité, viens parler à nos cœurs. Aide-nous à être attentifs, à recevoir ta parole, à la recevoir pour nous-mêmes et pour notre assemblée, Seigneur, et que ta présence soit manifeste dans nos cœurs, dans nos vies et dans la vie de cette Église, Seigneur, parce que c'est là que se trouve le repos. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. On va écouter la parole de Dieu.
Alors, le passage biblique de ce matin est tiré d'Exode au chapitre 35. Je vais lire trois passages en réalité, donc du verset 1 à 6, toujours 35, du verset 30 à 33. Et ensuite, on va aller au chapitre 40 pour les versets 33 à 38. Et je vais lire l'édition second 21. Alors, Exode 35, 1 à 6, 30 à 33, et le chapitre 40, 33 à 38. Moïse convoqua toute l'assemblée des Israélites et leur dit, « Voici les commandements que l'Éternel ordonne de mettre en pratique. Pendant 6 jours, on travaillera, mais le 7e jour sera saint pour vous. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui accomplira un travail ce jour-là sera puni de mort. Dans aucun de vos foyers, vous n'allumerez du feu le jour du sabbat. » Moïse dit à toute l'assemblée des Israélites, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prélevez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Toute personne dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, du bronze, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et du fin lin et du poil de chèvre. » Au verset 30, Moïse dit aux Israélites, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsaléel, fils d'Uri et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes d'œuvres d'art. » Au chapitre 40. Enfin, il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte de cette cour. C'est ainsi que Moïse mit un terme aux travaux. Alors, la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. À chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes.
Merci Stéphane. Juste pour vous remettre un petit peu dans le contexte, la semaine dernière, on a vu ensemble l'épisode du veau d'or, d'accord? Juste avant le moment où Israël va pécher, puis se façonner un veau d'or pour vouer un culte à une idole, puis tout ça, juste avant, ça s'était terminé avec les instructions de Dieu sur le jour du repos. Sur le jour de repos en Dieu, le jour du sabbat. Ça, c'est 31, versets 12 à 17. Le sabbat, le jour de repos. Puis, paf! Moïse monte sur la montagne. Israël oublie tout. Tous ses vœux, toutes ses grâces, l'alliance qu'il vient de contracter avec Dieu. Puis Israël pêche. Là, Dieu va traiter avec eux. Puis on a vu la semaine dernière, Dieu devait leur révéler leur cœur. Puis à travers ça, Israël avait besoin de découvrir à quel point ils sont un peuple au cou raide. Et c'est vraiment juste en vertu de la grâce que Dieu est là. Lorsqu'on arrive au passage de ce matin, si vous allez avec moi au début du passage, chapitre 35, les premiers versets, Stéphane nous les a lus. Donc, l'épisode du veau d'or vient de se terminer. Verset 35, « Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, « Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. » C'est comme si Dieu avait dit, je l'ai mentionné la semaine dernière, c'est comme si Dieu avait dit, « Bon, OK, vous avez fini de niaiser, là? Vous avez fini, là? Je peux continuer? J'étais en train de vous dire que je vous aime puis que vous êtes mon peuple avant que vous commenciez à faire des niaiseries. » Puis Dieu reprend là où il était. Je ne sais pas si vous avez vécu un moment dans votre vie chrétienne, peut-être que vous en avez vécu plusieurs, puis souvent ça dépend de notre compréhension de la grâce, notre compréhension de l'Évangile, notre compréhension de Dieu, mais je ne sais pas si vous avez vécu des moments où tu tombes, tu fais une faute, tu pêches, mais comme après 1000 avertissements de la part de Dieu. Dieu t'avait déjà averti, en tout cas dans ton sentiment, 1 million de fois. Ou peut-être encore, c'est la xème fois que tu pêches, tu tombes de la même manière. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais le sentiment qui vient en toi, c'est un sentiment de profond découragement. Et peut-être même la pensée, je pense que ça va s'arrêter là. Je pense que Dieu va me laisser tomber. Je pense que je suis juste pas chrétien, puis j'y arriverai juste pas pantoute, jamais. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Je sais que plusieurs l'ont vécu, parce que ça fait trop longtemps que je suis dans le ministère pour pas le savoir. Le message de ce matin est vraiment important pour vous. Il est important pour toute l'Assemblée ici. Parce qu'on arrive à la fin du livre, puis à la fin du livre, c'est le message de tout le livre qui est en train de se résumer. Il y a une direction dans ces chapitres 35 à 40, puis on va arriver à un climax vraiment à la fin, un sommet dans la révélation de tout le projet de Dieu à travers le livre d'Exode à la fin complètement, les derniers versets que Stéphane nous a lus. Mais il y a une direction qui transcende, qui suit à travers tout ça. Et Dieu est en train de raconter, parce qu'Exode, c'est l'histoire d'un Dieu qui a eu à cœur de venir vivre au milieu de son peuple, de devenir son protecteur, sa sécurité, son bienfaiteur. Et si vous êtes chrétien comme moi, c'est ton histoire, c'est mon histoire, c'est l'histoire de cette Église, l'histoire d'un Dieu qui a voulu venir vivre dans mon cœur, dans ma vie, parmi nous, au milieu de nous, pour devenir notre repos, notre protecteur. Et toutes les gaffes, toutes les conneries qu'on va pouvoir faire qui peuvent nous amener à l'extrémité du désespoir, comme si on avait réussi à dépasser la mesure de la grâce de Dieu, ne saurons pas nous retirer ce privilège d'entrer dans le repos de Dieu. Et c'est ça le message de ce matin. C'est l'histoire de l'Exode, c'est l'histoire de Dieu qui vient vivre au milieu de son peuple, et c'est ton histoire, c'est mon histoire, si ton cœur est à Christ. Premièrement, servir Dieu, mais surtout se reposer en Dieu. Comme je l'ai dit, il y a une direction dans les derniers chapitres. Israël était comme, juste avant, Israël était au maximum de ses péchés. Jusqu'alors, ils vont faire d'autres choses, ça va suivre. Mais ils sont en train de découvrir leur cœur. Tu sais, c'est ce moment où, au début de ta vie chrétienne, comme tu réponds, ça va bien. Ceux qui ont vécu une conversion à l'âge adulte, là, c'est, tu sais, dramatique un peu, là. Puis il y a comme 26 péchés qui se sont réglés le jour de ta conversion. Puis il en reste encore 48 000, mais tu penses qu'il en reste pas un, tu sais. Tu penses qu'ils sont tous réglés, puis tout va bien, puis c'est bon, puis c'est génial. Tu arrives dans l'église, c'est en feu. Tu regardes des chrétiens un peu découragés qui disent « Soit, c'est pas si simple que ça. » Tu te dis « Tableau qu'ils sont charnels. Je pense qu'ils sont pas chrétiens. » Puis là, tu t'en vas dans ta famille, tu leur expliques que tout peut être réglé là, tu sais. Puis les mois passent, les années passent, puis à un certain moment donné, des fois après 5 mois, des fois après 5 ans, certains c'est après 10 ans, d'autres c'est après 20 ans, ils disent « Mais j'ai pas bougé, on dirait. » Ce qui n'est pas vrai, c'est dans des moments de découragement qu'on va tenir ces propos-là, parce que si on regarde comme il faut, Dieu a fait plein de choses, mais on est découragé. Et j'ai besoin de savoir, de me rappeler à ce moment-là que servir Dieu, c'est bien, mais avant ça, se reposer en Dieu, c'est beaucoup mieux. Et c'est vraiment ça la pensée de Dieu, et c'est le message qu'il veut donner à la fin de ce livre-là. Exode 35, 1 et 2, Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit « Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. » Donc, il y a un retour sur le sabbat. C'est comme bizarre ce petit bout de texte-là, parce que tout de suite après, Israël va commencer à construire le tabernacle, toute l'habitation de Dieu, puis on va terminer avec la fin. Mais il y a un retour encore, et c'est pour ça que je vous dis, il y a une direction qui est là jusqu'à la fin du livre. On travaillera 6 jours, le 7e sera pour vous une chose sainte, c'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera un ouvrage ce jour-là sera puni de mort. C'est peut-être là que ça vient l'expression qui dit « négliger de se reposer, ça peut être mortel », tu sais. C'est une joke, c'est correct, pas caché. Vous réécouterez le message. Vous avez déjà entendu la citation de John F. Kennedy? Je vais la lire en anglais, puis je la traduirai pour ceux qui ont besoin de traduction. Super connu. « My fellow Americans, ask not what you, your country can do for you. Ask what you can do for your country. » Chers Américains, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Dans le domaine de la foi, c'est notre réflexe aussi. Je le dis souvent, par nature, le cœur humain est religieux et légaliste. Il veut s'accumuler des mérites pour aller dans la présence de Dieu. Il se pose constamment la question, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Dans le domaine de la foi, avec Dieu, c'est le contraire complètement. Ne te demande pas ce que tu peux faire pour Dieu. Demande-toi ce que Dieu peut faire pour toi. Parce que c'est Dieu qui nous fait grâce. Parce que c'est Dieu qui est allé chercher Israël en Égypte. Parce que c'est lui qui les a sauvés. Et il n'y a rien qu'Israël va pouvoir faire qui va mériter cette grâce-là. Au contraire, lorsqu'ils réussissent à faire 3-4 bons coups, après ça, ils se plantent complètement, ils sont une déception totale. Puis Dieu leur appelle sa grâce. Puis il les invite à faire appel à sa grâce. Donc, si tu vis la vie chrétienne au quotidien en te demandant toujours « Est-ce que j'en ai fait assez? Qu'est-ce que je dois faire? Aujourd'hui, je n'ai pas été assez bon. J'en ai pas fait suffisamment. » Fondamentalement, tu as la vie chrétienne dans ta tête complètement à l'envers. La question n'est jamais premièrement « Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? » La question est toujours premièrement « Qu'est-ce que Dieu peut ou qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? » Et j'entre dans ce repos-là. Et c'est pour ça que Dieu avait tellement à cœur le jour de repos. Ce jour où on s'arrête puis on se recentre sur la personne de Dieu. C'est correct, tu as été actif toute la semaine, tu as fait un paquet d'affaires, tu n'as pas arrêté. Maintenant, là, mon bon petit juif, là, tu vas t'arrêter. Arrête de penser à réussir puis à monter ta business puis à tout faire tes affaires. Arrête ça, là. Viens-t'en juste te centrer sur la personne de Dieu et te reposer en Dieu. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous êtes dans votre expérience de la vie chrétienne. Notre repos à nous dépasse encore celui d'Israël. On va le voir ensemble dans un instant. Mais c'est fondamental à la conception de la vie chrétienne. Je racontais ce matin dans mon cours, je me suis réveillé ce matin dans mon lit, puis je ne sais pas, j'étais agité. Des fois, je dors bien samedi soir, des fois non, mais j'étais agité, j'avais l'esprit agité. Puis là, déjà, avant même de me lever, j'étais en train de penser, OK, j'ai mon message, j'ai une annonce pour Yatal, il faut que j'ai mon cours, ce soir, on a la constitution, nanana. Puis là, ça partait avec, boum, je m'assois dans mon lit. Moi, c'est pas long, ça part vite. Là, je me suis assis dans mon lit, puis j'ai dit, non, il marche pas. Je me suis recouché. C'est vrai? C'est vrai? Je me suis recouché, puis j'ai fait ce que je vous dis que je fais, généralement. J'ai oublié de le faire. J'ai repassé l'Évangile dans mon cœur. Je lui ai dit, tu vas prendre 5 minutes, bonhomme, là, tu vas revoir l'Évangile avant de commencer ta journée. Tu ne commenceras pas la journée comme ça. Et j'ai repassé l'Évangile dans mon cœur parce que j'ai besoin de me rappeler que ce n'est pas ce que je peux faire pour Dieu qui compte. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Le reste va suivre. On lit dans la lettre aux Hébreux, Hébreux 4, versets 7 à 10. Hébreux 4, versets 7 à 10. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué, qui va diriger après Moïse le peuple vers la terre promise, leur eût donné le repos, la terre promise devait être le repos d'Israël. Il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. » Et la lettre aux Hébreux nous expose de manière vraiment excellente l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, ce qu'Israël vit à ce moment-là avec Dieu, où Dieu va venir vivre au milieu d'eux, puis ils vont devoir garder cette journée de repos pour venir se reposer en Dieu, nous le trouvons dans la personne de Jésus-Christ. Toutes ces choses annonçaient le repos qui viendrait en Jésus-Christ. Et je suis appelé à mon tour de ne pas passer mon temps à me demander qu'est-ce que je peux faire pour Dieu, mais de commencer en venant adorer mon Dieu et en reconnaissant le repos qu'il m'offre en Jésus-Christ. Et la vie chrétienne, c'est cette vie de repos. Comment est-ce qu'on peut réconcilier le fait que l'apôtre Paul va nous dire qu'on doit lutter, puis Paul va dire qu'il traite durement son corps, mais en même temps, il va dire « soyez toujours joyeux ». Soyez toujours joyeux, car c'est la volonté de Dieu. Parce que Paul était un adorateur avant tout. C'était quelqu'un qui avait trouvé le repos en Jésus-Christ. Il avait connu la religion par les œuvres, Paul. C'était le meilleur des pharisiens. C'était le top du performer. Tu sais, en matière de religion, tu n'avais pas plus que Paul. Tu sais. Je veux dire, il persécutait des chrétiens, il mettait à mort par zèle pour Dieu. C'est comme le top de la religiosité. Et lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, il s'est reposé de ses œuvres légalistes-là. Et il est entré dans la grâce de l'Évangile. Et ce que Dieu fait, c'est que dans la suite du récit, Israël va construire une maison pour que Dieu puisse habiter au milieu de son peuple. C'est vraiment étrange, je l'ai dit, mais on a comme toute une répétition. Quelques chapitres plus tôt, on a toute la description, puis là, on a encore toute la description lorsqu'il réalise la construction. Pourquoi cette répétition-là? Parce que c'est le message que Dieu veut lancer. Je viens habiter au milieu de vous. Je vais être au milieu de vous. Je vais marcher avec vous, au milieu de vous. Et on a cette description aussi. Quand vous la lisez là, dans votre culte personnel, vous dites, mais c'est bien long cette affaire-là. Lisez chaque mot attentivement en réalisant que Dieu est en train de dire, je vais habiter au milieu de vous. Je vais être avec vous quotidiennement, matin et soir, jour et nuit. Je vais être avec vous. Et c'est la promesse qui nous est donnée en Jésus-Christ, que par son Esprit Saint, il vient faire sa demeure en nous et il est avec nous. Et donc, ce que Dieu va faire, c'est qu'il dit, vous habitez dans des tentes, ma maison va être une tente. C'est ça qu'il fait avec Israël. Il leur dit, vous êtes des nomades pour l'instant. Mais je vais habiter dans une tente, puis je vais voyager avec vous, je vais me déplacer avec vous. Ensuite, Christ vient puis dit, vous êtes des hommes. Je vais devenir homme. Je vais vivre ce que vous avez vécu. Il part et dit, je vous donne mon esprit pour qu'il habite en vous. Je vais être avec vous. Est-ce que ce n'est pas incroyable? Est-ce que ce n'est pas extraordinaire de savoir que l'Esprit de Dieu habite en moi, malgré le fait que je connais mon cœur, puis souvent je dis, moi aussi, Seigneur, je suis comme Israël, un peuple aux coups raides. Un peuple aux coups raides. Je voulais juste un passage dans Éphésiens 2, versets 11 à 13. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, donc non-juifs, on n'était pas là avec la tente, le tabernacle, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Dieu vient habiter au milieu de son peuple. Il veut que son peuple apprenne à se reposer en lui. Et c'est ça la prière. Quand vous dites, moi je ne suis pas une personne de prière, j'ai de la difficulté à prier. La prière, c'est prendre le temps de m'arrêter puis me reposer en Dieu. Dire, ah ouais, mais moi je ne sais pas comment adorer. Je ne sais pas comment faire ça la prière. Prends tout ton stress là, à la fin de la journée qui fait que quand tu rentres à la maison, tu as une face de bœuf là. Parce que t'es fatigué, parce que la journée était difficile, c'était exigeant. Là, les enfants, tu sais, t'as une jeune famille, les enfants, ils t'aiment, tu sais, mais ça tire du jus, ces bébêtes-là. Prends le temps de t'arrêter. Va-t'en avec ton épouse. Vous êtes chicané, vous êtes stressé. Prenez le temps de vous arrêter. La prière, c'est juste s'arrêter et se reposer en Dieu. Comment est-ce que je fais ça? Seigneur, t'es là. T'es là, je sais, à cause de Christ. Pas parce que j'ai été sur la coche aujourd'hui. T'es là. Puis je veux t'adorer, Seigneur, parce que je ne mérite pas que tu sois là, mais t'es là, puis tu pourvois, puis tu prends soin. Puis tu t'occupes de nous, puis tu vas encore être là, puis tu vas être encore là demain, tu vas être encore là pour l'éternité, puis commencer à adorer Dieu. Puis simplement à célébrer Dieu. C'est ça la prière. Après ça, il y a l'intercession, il y a d'autres choses, mais c'est ça la prière. C'est prendre le temps de s'arrêter. Quand vous venez le dimanche matin, venez pas ici en vous disant, oh, pff, faut que j'aille encore là, à l'église ce matin. C'est pas ça, c'est venez charger votre batterie en chantant des chants de louange, en défocussant de sur vous-même puis vos soucis, puis en pensant simplement à Dieu, puis serrer des mains en réalisant que tous ces gens-là viennent se reposer en Jésus-Christ. Recevez la parole de Christ, pas comme un fardeau, mais comme la bénédiction de vous reposer en Dieu. Et quand je parle à des amis, quand je m'en vais faire de l'évangélisation, puis je parle à des amis, puis là, je sais, j'ai comme toutes les barrières qu'ils vont avoir dans leur tête, puis tous les blocages, puis qu'est-ce qu'ils vont... Ah, ils vont penser ça, mais dans le fond, mon message à moi, c'est quoi? Man, je t'offre un voyage dans le sud, tout frais payé, c'est ça que je suis en train de t'offrir, et pour l'éternité. Parce que je le sais, c'est quoi la vie sans Jésus-Christ? C'est pas reposant. C'est pas reposant. Je sais, la vie chrétienne, c'est pas toujours facile, les amis, je sais. Ça fait un bout que je roule ma bosse, moi aussi, avec Christ. Puis trop souvent, je suis humilié par mon propre péché. Je souffre des péchés des autres. Je comprends l'histoire. Mais je côtoie les gens du monde. C'est pas reposant à vivre sans Dieu, je vous l'assure. Et lorsque j'annonce l'Évangile à des amis, je suis en train de les inviter à rentrer dans le repos qu'il y a en Jésus-Christ. À se reposer d'eux-mêmes, de leurs péchés. À se reposer du mal qu'il y a dans le monde parce qu'ils savent qu'ils ont un protecteur. À savoir qu'ils vont se reposer pour l'éternité en Jésus-Christ. C'est juste ça, dans le fond, d'évangélisation. Et peut-être que vous dites, c'est pas tellement équilibré ce que tu nous apportes comme message ce matin, parce que la vie chrétienne demande qu'on se donne, demande qu'on soit là, absolument. Mais tout ça se vit à partir d'un cœur qui est reconnaissant, un cœur qui est entré dans ce repos-là. Et c'est ça qui se passe dans la suite du passage. Dans la suite du passage, Israël va donner, ils vont être généreux, ils vont se consacrer, ils vont consacrer leurs richesses, ils vont consacrer du temps, ils vont construire la maison. Mais consacrer nos vies, nos corps, nos ressources doit toujours être une histoire de cœur. C'est parce que j'entre dans le repos qu'après ça, mon cœur va répondre. C'est parce que j'entre dans cette grâce-là qu'après ça, mon cœur va répondre. Constamment, c'est ça le mouvement. Écoutez, Israël va se mettre à donner. Et puis, on a vu la semaine dernière qu'est-ce qu'ils avaient fait avec ce qu'ils avaient reçu en Égypte. Ils avaient fait un veau d'or. Bon, là, ils se sont repentis. Ils n'avaient pas tout donné pour le veau d'or. Ils apportent de ce qu'ils ont reçu. C'était des esclaves en Égypte. Ils sont partis avec rien, des guenilles. Vous comprenez, c'était des esclaves. Mais finalement, ils ne sont pas partis avec des guenilles. Parce que les Égyptiens leur ont donné plein de richesses. Allez, allez-y, partez, partez. C'est quoi tu veux? Tu veux mon char, mes clés de char? Ouais. Prends tout, fous le camp. On n'est plus capable de vous avoir. C'est trop souffrant. C'est ça qui s'est passé. Ils sont partis de là avec plein de richesses. C'est ça la réalité. Et là, ce qui va se passer dans les chapitres qu'on est en train de traverser, Israël va venir, puis généreusement, ils vont donner, ils vont donner, ils vont pourvoir à tout ce qui est nécessaire pour construire. Exode 35, 29. « Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre de l'Éternel, l'Éternel avait ordonné par Moïse, apportant des offrandes volontaires à l'Éternel. » Et dans cette section-là, il y a 7 versets qui nous répètent qu'il faisait ça de bon cœur, dont le cœur était bien disposé. Donc, c'est vrai qu'on est appelé à se consacrer, puis à se donner, puis à servir. Mais dans la pensée de Dieu, dans le désir de Dieu, dans sa communion avec nous, ça doit toujours venir d'un cœur qui déborde. Ça vient d'un cœur bien disposé. Ça vient d'une abondance de cœur. Ça vient d'un cœur qui s'est premièrement reposé en Jésus-Christ. Puis après ça, j'entre dans le service. Après ça, je vais me dévouer. Les chrétiens de la Macédoine, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 8:5, voici ce qu'on lit. Paul écrit, « Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. » Donc, il y a définitivement cette consécration-là, mais c'est une consécration qui vient premièrement d'un cœur consacré. Poussé par l'amour pour Dieu, par reconnaissance envers Jésus-Christ, les chrétiens de Macédoine ont été super généreux. Ils ont pourvu parce qu'ils récoltaient une offrande pour aider des chrétiens d'autres assemblées qui étaient dans la difficulté. Il y avait cette reconnaissance parce qu'ils savaient que tout ce qu'ils donnaient, c'était en fait Dieu qui leur avait donné premièrement. Comme lorsqu'Israël a donné pour le tabernacle. Je viens de le dire. En réalité, ils étaient juste en train de donner un peu pour l'œuvre de Dieu, de tout ce que Dieu leur avait donné en Égypte, à la sortie d'Égypte. Et c'est toujours comme ça. Voyez-vous, ça vient d'un cœur qui est reconnaissant. J'ai un travail, je gagne des sous, j'ai du temps, j'ai une maison pour accueillir des gens. Qu'est-ce qui se passe si je suis là, puis, oh, il faut donner, OK, là, il faut aider, là, il faut accueillir, là, il faut aller servir. Mais si au lieu de cela, j'ai commencé par me reposer en Christ, puis je réalise que ma santé, c'est une grâce de Dieu. C'est pas que j'allais mériter la santé. Tu ne la mérites pas. Même si tu fais du bodybuilding, puis tu checkes ta diète, tu ne mérites pas ta santé. C'est une grâce de Dieu, je te le garantis. Tu peux aider un peu, tu ne mérites pas. C'est Dieu qui te la donne, la santé. Le travail, c'est Dieu qui te le donne. Et quand ça passe, ces choses-là, tu réalises. Tu ne pourrais rien faire pour tout retenir ça par toi-même. C'est pas vrai qu'on est au contrôle de notre vie, vraiment. D'accord? Ce sont des grâces de Dieu. Puis là, je cultive cette reconnaissance-là dans mon cœur et j'ouvre ma maison. Je cultive cette reconnaissance-là dans mon cœur. Je veux aider, je veux donner, je veux être généreux. Mais c'est premièrement d'un cœur qui déborde de reconnaissance. Et puis Dieu va donner non seulement les richesses, non seulement pourvoir à tout ce qu'on a besoin pour pouvoir construire le tabernacle à ce moment-là, mais il donne les dons, il donne les talents. Exode 36, 2, Moïse appela Betsaléel, Oliab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence. Ça ne s'arrête pas là. Tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Donc, il y a les deux. Écoutez cette citation encore une fois de Motyer, Alec Motyer. « La sagesse humaine n'est pas suffisante pour l'œuvre de Dieu. Il doit y avoir un don de la sagesse divine, définitivement. » Et c'est ça que le passage nous dit. C'est Dieu qui les a équipés pour faire le travail. « Mais aussi, sans la consécration personnelle pour le service, l'œuvre ne serait pas accomplie. » Et la manifestation de la présence de Dieu au milieu de son peuple ne se réaliserait pas. Voyez-vous, il y a cette combinaison. C'est Dieu qui pourvoit, puis par reconnaissance, je me consacre et je m'en vais servir. Il y a cette combinaison-là qui se produit. Donc, donner doit toujours être une histoire de cœur, une réponse. Et quand le cœur est là, il n'y a absolument rien qui va manquer à l'œuvre de Dieu. Quand le cœur est bien disposé, quand les chrétiens sont reposés en Dieu, sont des adorateurs de Dieu, il n'y a jamais rien qui va manquer pour faire l'œuvre de Dieu. Ni temps, ni ressources, ni personnel, ni argent. Dieu va pourvoir. Et donc, on lit dans Exode 36, versets 4 à 6, « Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittant chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fut publié dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'apporter des offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. » Ça vient d'où, ça? C'est ceux qui adoraient le veau d'or. Voici longtemps. Mais ils ont connu la grâce de Dieu parce que Dieu leur a fait grâce après ce péché-là. Et leurs cœurs, maintenant, sont remplis de reconnaissance. Il faut même les arrêter. OK, c'est assez. Alec Motayer dit, « Du côté de Dieu, tout est grâce envers nous. Et de notre côté, c'est une décision et un désir du cœur. » Ton service à la maison, ton travail, ton service au travail, ton service dans la communauté, lorsque tu es impliqué dans un ministère de l'Église, c'est lourd. Il y a des moments où ça va être lourd. C'est sûr, il y a des choses qui sont difficiles. Mais c'est généralement lourd. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du cœur. Peut-être que tu as besoin juste de slacker la pédale un peu, ralentir un peu. Est-ce que tu es là pour être premièrement un adorateur? Peut-être que tu as besoin de prendre une pause. C'est bon des fois de prendre une pause. Peut-être que tu as besoin de aller voir un ami et dire, hey, je t'emprunte ton chalet, je pars 2 jours au chalet avec la parole de Dieu, je m'en vais prier, je m'en vais adorer. J'ai besoin de recharger la batterie, j'ai oublié. J'ai oublié que cette histoire-là, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire d'adorateur. J'ai perdu ça de vue. Tu as besoin juste de prendre une journée, un samedi, puis tu dis à tout le monde, écoutez, je suis désolé, je tire la plug, je m'en vais juste me brancher sur Dieu. Il faut que ça reconnecte cette affaire-là, parce que là, tout est lourd. Je ne suis pas premièrement un adorateur. Mais si tu te reposes en Dieu, Dieu va le faire. Il va venir te rejoindre, parce que c'est ça qu'il désire plus que toute autre chose. Un commentaire rapidement sur les finances de l'Église. Ceux qui sont très attachés à l'Église ici, vous regardez les finances, puis on dit, on va voir notre réunion annuelle, vous allez voir, on a une équipe extraordinaire qui gère bien les finances. On s'arrange pour balancer à la fin de l'année. Mais depuis 2 ans, il y a comme moins d'argent qui rentre au niveau des finances. Pour toutes sortes de raisons, il y a eu des départs, des donateurs très généreux, puis tout ça. Mais il y a d'autres choses, parce que l'Assemblée continue à grandir. Puis quand je prie pour ça, sur ce sujet-là, savez-vous comment je prie? Seigneur, viens toucher les cœurs. Viens toucher les cœurs. Viens disposer les cœurs, Seigneur. C'est toi qui disposes le cœur, puis on ne veut pas rien recevoir qui ne viendrait pas d'un cœur qui déborde, puis qui a une passion pour toi. Puis viens faire ça, Seigneur. Le reste va se placer ensuite. Le reste va suivre. Et c'est vrai pour tout notre service. C'est vrai pour notre service au complet. Ça m'amène à mon dernier point ce matin. Et c'est vraiment la fin du livre d'Exode. C'est vraiment là qu'on voit le climax dans l'histoire du livre d'Exode. Dans Exode 40, 34 à 38, voici ce qu'on lit. « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient, quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu, aux yeux de toute la maison d'Israël, pendant toute leur marche. » L'histoire du livre d'Exode, c'est l'histoire d'un Dieu merveilleux, qui a pris un peuple qui était esclave, qui n'était pas une nation, parce qu'ils ne possédaient pas leur destinée. Ils étaient des esclaves. Il les a conduits au désert, et il a conquis leur cœur. c'était pas la meilleure des blondes à te faire, Israël. C'était pas la meilleure des fiancées à fiancer. Mais Dieu a su conquérir leur cœur. Et le projet de Dieu, c'était de leur dire, maintenant, je vais marcher avec vous, je vais habiter au milieu de vous tous les jours, matin et soir, jour et nuit. Et ça, c'est notre histoire. J'aimerais ça inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Le livre d'Exode, c'est un livre où on voit la gloire de Dieu, on voit sa gloire terrible par moments lorsqu'on est au pied du mont Sinaï, puis Dieu est là, il se manifeste dans toute sa gloire, puis on voit comment Dieu ne transige pas, ne négocie pas avec le péché lorsqu'il vient juger, et 3000 hommes vont mourir dans une journée sous le jugement de Dieu parce que Israël a rejeté Dieu complètement pour se faire un veau d'or. Mais l'histoire du livre d'Exode, ce n'est pas l'histoire des péchés d'Israël. L'histoire du livre d'Exode, ce n'est pas l'histoire de la loi. C'est l'histoire d'un Dieu magnifique et merveilleux qui prend des gens qui ne sont pas le peuple de Dieu et qui fait d'eux son peuple. L'histoire du livre d'Exode, c'est l'histoire de personnes qui ne savent pas où ils s'en vont dans la vie, ne construisent rien avec leur vie, n'ont pas de destinée. Et Dieu leur dit, « Je vais être votre destinée. » L'histoire du livre d'Exode, c'est l'histoire d'êtres humains qui pensent qu'il faut que tu adores par-ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu cours après toutes sortes de choses, il faut que tu aies toutes sortes d'idoles dans ta vie, parce que lorsqu'Israël a quitté l'Égypte, ils avaient plein d'idoles, ils avaient adopté des dieux égyptiens. Puis Dieu les conduit puis leur dit « Non, entrez dans le repos de ma présence. » Et c'est ce que j'ai fait au jour de ma conversion. Au jour de ma conversion, je suis entré dans le repos de l'Évangile de Jésus-Christ. Toutes ces choses que dans l'Ancien Testament, l'apôtre Paul nous dit servaient d'instruction pour nous, afin qu'on puisse apprendre de leurs erreurs. Si ta vision de la vie chrétienne, c'est que tu te demandes à tous les jours, « Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? J'en ai pas fait assez pour Dieu. Je suis passé à la coche aujourd'hui. Il faut que je passe à la confesse. » Tu commences pas à la bonne place. Il y a une place pour demander pardon à Dieu pour tous nos péchés. Tous les jours, Dieu me rappelle un péché d'aujourd'hui ou d'hier, puis je dis, « Oh Seigneur, je te demande pardon. » Mais vous savez quoi? Mes journées commencent jamais avec la confession. Mes journées commencent toujours avec l'adoration. Parce que la vie chrétienne, c'est pas de me demander qu'est-ce que je peux faire pour Dieu. C'est de prendre conscience de ce que Dieu a fait pour moi. Les Saintes Écritures disent, « Aujourd'hui est le jour du salut. » Si certains d'entre vous, vous n'êtes pas entrés dans ce repos qui est en Jésus-Christ, encore, je vous invite à le faire aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de porter les lourds fardeaux de la vie, parce qu'il demeure lourd à bien des égards dans la vie chrétienne aussi. Il y a des combats dans la vie chrétienne. Mais vous n'avez pas besoin de les porter sur vos épaules. Le poids de vos échecs, de vos luttes, le poids de vos péchés, le poids des querelles qu'il y a dans vos vies, des querelles qu'il y a autour de vous, vous n'avez pas besoin de porter ça. Vous pouvez entrer dans le repos qu'il y a en Jésus-Christ. Vous pouvez le faire aujourd'hui en disant simplement à Dieu, « Seigneur, je veux me reposer de mes œuvres à moi, elles ne sont pas bonnes. Je veux entrer dans ton œuvre à toi. J'accepte ta grâce, ton pardon qu'il y a en Jésus-Christ. Je ne veux plus être le Seigneur et maître de ma vie. Je veux que tu diriges ma vie. Je veux t'adorer. Je veux que tu habites au milieu de ma vie comme tu étais au milieu de la nation d'Israël. » Et c'est ça la vie chrétienne. C'est premièrement entrer dans le repos de Dieu. On va chanter des chants de louange dans quelques instants. Reposez-vous en Dieu en venant l'adorer avec nous. On va prier. Éternel notre Dieu, on veut t'adorer parce que tu es magnifique, Seigneur. On veut t'adorer, Seigneur, parce qu'en toi, on trouve le repos. En toi, on trouve le pardon, on trouve la grâce, Seigneur. Lorsqu'on s'approche de toi, par moments, Seigneur, on découvre combien tu es un Dieu terrible, saint, juste. Mais ta justice, Seigneur, n'est pas supplantée, n'est pas dépassée par ta grâce et ton amour. Au contraire, ta grâce, Seigneur, C'est le summum de la manifestation de ta gloire, Seigneur, et nous l'avons vu et découvert en Jésus-Christ. Et nous sommes entrés dans ce repos en Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, apprends-nous cette semaine à faire chaque pas dans notre vie chrétienne, reposer dans l'Évangile de Jésus-Christ. Amen.